Le journal en français, Adiatipoku.
Bonsoir, et tout de suite les titres de cette édition. Regain d'insécurité à Lopa dans la province orientale. Trois membres de l'ONG Solidarité ont été menacés de mort et un autre tabassé par une dizaine de personnes armées. Les explications du coordonnateur de cette ONG, c'est tout à l'heure dans cette édition. Au moins 30 personnes victimes des mines antipersonnelles à Kabalo dans la province du Katanga. C'est le bilan de l'ONG Dan Church Aid après une mission de prospection dans cette localité. Des femmes et des mineurs victimes de viols, même dans la capitale. Ça se passe dans les quartiers périphériques de Kinshasa. Les auteurs de ces viols sont toujours impunis. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette information sportive avant de poursuivre. Un but partout, tel est le score final du match qui a opposé cet après-midi les Simba de la République démocratique du Congo aux Black Stars du Ghana. Ces derniers ont ouvert le score par un but de Asamoah Gyan à la première mi-temps, mais ils ont été rattrapés à la seconde mi-temps par le but de Shabani Nonda. Rappelons que ce match s'inscrivait dans le cadre des éliminatoires de la CAN et du Mondial 2006. Nous vous le disions dans les titres, trois membres de l'ONG internationale Solidarité ont été menacés de mort et l'un d'eux tabassé par une dizaine de personnes armées de Kalachnikov et lance-roquettes le jeudi dernier. La scène s'est déroulée à Lopa, à quelques 3 km du camp de déplacés de Djina, en province orientale. Ces personnes armées avaient exigé que le véhicule des Solidarités les transporte jusqu'à Iga Barrière, à environ 10 km de Lopa. Malgré la résistance de l'équipe de cette ONG humanitaire, des miliciens ont embarqué de force. Guillaume Sauvane, responsable de l'ONG internationale Solidarité en Ituri, au micro de Godlive au Mondo.
Sous la menace armée directe, nous avons dû effectivement transporter pendant 1 km ces hommes. Puis la discussion s'est envenimée puisque nous continuions à demander à ce qu'ils descendent. Et c'est là que l'incident grave s'est passé, dans le sens où le véhicule a été stoppé. Et les trois passagers de Solidarité présents à l'intérieur du véhicule ont été directement menacés de mort. Il y a eu un tir sur le véhicule qui a frôlé le chauffeur et l'expatriée présente dans le véhicule a été tabassée. Les personnes sont clairement identifiées comme des personnes appartenant au groupe militaire de l'UPC. Il s'agissait en particulier donc d'un major qui était à la tête de ce groupe et un certain nombre donc de démarches sont entreprises avec solidarité et en coordination avec OCHA, le bureau humanitaire, pour essayer d'avoir de plus amples informations sur cette personne et de manière générale le positionnement de l'UPC face au transport des militaires et à l'accès des humanitaires sur les zones de population vulnérable.
Notons par ailleurs que deux autres membres de cette ONG ont été tabassés et leurs biens arrachés il y a environ 3 semaines à Irumu par des éléments de l'armée populaire congolaise APC en partance pour le centre de brassage de Beni. À une semaine de la fin du processus DRC, désarmement et réinsertion communautaire, une délégation de la CONADER a visité Bounia hier samedi. La délégation devrait se rendre compte de l'état d'avancement des projets de réinsertion prévus dans le cadre du DRC. La CONADER, Commission nationale de démobilisation et réinsertion communautaire, a annoncé une aide financière pour les ex-combattants en attendant qu'ils se forment à un nouveau métier. Godlive au Mondo, une fois de plus.
Ceux qui ont opté pour la vie civile en Ituri vont bénéficier d'une somme de 25 dollars mensuels. Ceci pour une période de 12 mois. Au-delà de cette échéance, il est supposé que les démobilisés auront déjà été formés pour un métier et seront capables de se prendre en charge. La CONADER ne se prononce pas encore précisément sur la date des premiers versements. Monsieur Mande Kabasele, directeur de la réinsertion à la CONADER.
Le projet qu'il a choisi demande une préparation peut-être d'un mois, je sais combien. Pendant tout ce temps, il faut qu'on puisse l'appuyer avec un peu du cash pour lui permettre de vivre tant soit peu. Nous le donnons immédiatement, aussitôt. Le problème maintenant, c'était les mécanismes qui sont mis en place par le programme, donc les banques qui devraient payer et les structures financières qui sont déjà sélectionnées. C'est pour bientôt, c'est pour très bientôt.
À l'heure actuelle, les processus de réinsertion communautaire sont en retard par rapport à la sortie du centre d'identification. Les responsables de la CONADER expliquent cette situation par des raisons techniques et sécuritaires. D'autres projets urgents à haute intensité de main-d'œuvre sont également réalisés par le Programme national de désarmement, de mobilisation et réinsertion. Ceci pour l'encadrement des ex-combattants qui se plaignent déjà de chômage. Bounia, Godlive Mondo, Radio Okapi.
Et puis les habitants de Pougna dans le Maniema, sensibilisés sur la cohabitation avec les ex-combattants, ces derniers ne sont pas toujours acceptés facilement dans cette localité lorsqu'ils doivent réintégrer la vie sociale, raison pour laquelle l'ONG Initiative Congolaise pour la sauvegarde des populations de Goma, ICG, s'est déployée à Pougna. Objectif, faciliter la cohabitation entre les ex-combattants et la population de Pougna. Reportage de Mathieu Ilunga.
Concrètement, après que nous soyons déployés en territoire de Pougna, nous avons pris contact avec les autorités de la place, contact avec les ONG d'interface. Nous avons détecté 25 animateurs pour les 25 groupements. Nous avons mis en place les dispositifs de visibilité. Là, nous parlons les calicots, pancartes, tout ça par rapport à la sensibilisation, justement. Nous avons invité les chefs des églises de Pougna. Ensemble avec, nous avons confectionné un message. Ce message a été lancé dans les églises. Le constat était que les gens s'acceptent mutuellement et sont prêts à cohabiter. La bonne volonté est là parce que les villageois, au moment où je vous parle, si vous arrivez à Pougna, on va vous parler des pneus du Comorec et de l'ICG, tout ça, c'est parce qu'ils ont vu ce que nous avons fait. C'est un processus dans le cadre du DDR. Et en ce moment-là, la préoccupation est que nous puissions arriver à réintégrer d'abord les ex-combattants. Parce que vous savez, après la guerre, il y a eu des divisions. Les familles sont divisées, tout ça, on ne s'accepte pas. Il faut que le message passe pour que ces gens qui ont pris les armes hier puissent rentrer paisiblement dans leur communauté d'accueil et qu'ensemble, on puisse former une population unie qui songe maintenant au développement de leur propre village, leur propre groupement et leur propre territoire. Lorsqu'on implique la population, la réussite n'est pas à redouter. Nous avons fait les histoires d'une façon démocratique. Et au moins, je vous parle, si vous rendez, vous déployez à Pougna, vous serez informé de ce que font actuellement les animateurs sur le terrain. Il n'y a pas de problème, tout le monde est impliqué à partir de l'autorité ainsi que de la population, tout va bien.
Voilà, c'était un membre de l'ONG ICG qui s'exprimait au micro de Mathieu Ilunga. Au moins 30 personnes ont été victimes de mines au cours du dernier mois dans le territoire de Kabalo, une localité située sur la voie ferrée à 350 km à l'ouest de Kalemi. Selon l'ONG Dan Church Aid, qui a effectué une mission de prospection dans cette localité, la plupart des personnes touchées sont des femmes et des enfants. Écoutons le chef de mission Kilemango Making.
Nous avons localisé plusieurs surfaces minées dans les localités de Kabumba, de Kasingé, Nzofu et Katelwa. Ce que nous faisons concrètement dans cette phase, c'est d'abord l'éducation sur les risques des mines auprès des communautés, des populations. Pendant qu'on est en train d'éduquer, on identifie les surfaces minées. La deuxième phase qui va bientôt commencer d'ici mai-juin, ce sera alors le déminage effectif. On devra maintenant commencer à déterrer, à détruire, à déminer donc.
Le chef de mission de l'ONG Dan Church Aid affirme également que le territoire de Kabalo est le second axe le plus important en raison du nombre de mines après les axes de Kioko, Kabeyamai et de Niemba Manono. Quittons l'Est pour l'Ouest et plus précisément à Matadi. La signature de l'accord de partenariat entre la Commission électorale indépendante et les acteurs non étatiques se poursuit. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la concertation pour la province du Bas-Congo. Plus de 77 associations non étatiques l'ont déjà fait. La dernière en date, l'Union des jeunes patriotes de Bilokos, jusque-là non intégrée dans le processus d'identification des électeurs. Le coordonnateur du bureau de représentation de la Commission électorale indépendante Bas-Congo explique pourquoi cette catégorie de jeunes est ciblée aujourd'hui. Monsieur Hervé Diakessé est interrogé par Eugène Kabambi.
Nous avons ciblé aujourd'hui une catégorie assez particulière de la population, la jeunesse. Mais la jeunesse s'active, qui se retrouve dans des cadres d'activité qui ne sont pas toujours souvent mis en exergue. Les jeunes vendeurs des marchés, les jeunes débrouillards, et ici à Matadi, on a ce qu'on appelle l'Union des jeunes du marché Bilokos. Ils nous intéressent d'autant plus que, vous le savez, la jeunesse constitue au moins 70% de la population active de ces pays. Et donc, c'est cette grande partie de la population qui ira voter. Et la jeunesse qui est représentée par ce groupe qu'on a invité aujourd'hui est davantage composée d'un groupe d'individus susceptibles d'être manipulés dans un sens ou dans l'autre, et qui peut forcément, s'ils n'ont pas la bonne information, contribuer à des activités qui peuvent nuire au bon déroulement du processus électoral.
Des femmes et des mineurs victimes de viols à Kinshasa, cela se passe dans les communes périphériques de la capitale, précisément Anjili Brasserie et Kimbanseke. L'ONG SWAA, DISWA, Association africaine des femmes qui luttent contre le sida, a mené récemment une enquête avec l'appui de l'Agence américaine pour l'aide au développement USAID. C'était dans le cadre de la promotion du préservatif féminin. Les résultats de ces enquêtes ont révélé que les mamans maraîchères et les enfants de 8, 10 ans et plus sont souvent violés par des militaires et même des civils lorsqu'elles vont acheter des légumes et des fruits. Écoutant Aimé Mouadi, coordonnatrice de soi, elle est au micro de Nicole Koudiangila.
presque chaque jour, il y a des femmes qui sont violées. Donc, ce sont des femmes, je dirais, de l'âge de 8 ans, 10 ans, jusqu'au-delà. Donc, même les femmes âgées sont violées. Donc, en fait, ce sont les femmes qui quittent la ville. Comme vous voyez, la commune de Kimbanseke est une commune semi-rurale. Alors, ces femmes qui vont donc dans la périphérie pour chercher des produits à vendre, donc acheter pour revendre, soit des légumes, des fruits de saison, soit des légumes, soit chercher du bois, du chauffage, soit de l'eau. Et c'est là où ces femmes sont violées. Les femmes elles-mêmes, quand nous leur avons montré le féminin, elles se sont exclamées, elles ont dit « Ah tiens, ça c'est pour nous, ça peut nous aider à nous protéger ». Elles nous diront « Mais chaque fois que nous nous retirons vers le milieu rural, en dehors de Kimbanseke, vers Djili Brasserie et au-delà, nous sommes victimes de viols ».
Direction Kasaï Occidentale, le territoire de Lomela à 217 km de Lodja, enclavé depuis plusieurs années. Pas de voie de communication, pas de moyens de transport. Le rapporteur général du Forum de réflexion et d'action pour le soutien des activités du PPRD Lomela, qui a séjourné dans ce territoire, lance un cri d'alarme. Il demande aux hommes de bonne volonté de venir en aide aux habitants de cette contrée. Monsieur Hilaire Ombatawalokonda dresse le tableau sombre de Lomela. Il a été joint par Thérèse Bassoubi.
C'est un territoire complètement enclavé. Pour partir de Lodja jusqu'à Lomela par moto, on fait plus de 5 jours. Il n'y a pas de voie de communication fiable. Et l'aérodrome vient d'être rouvert par la population avec les efforts locaux. Nous n'avons qu'un seul bac. Quand on vient de Lodja, quand on vient de Kole, on vient de Kananga, Benadibele, on se limite juste au niveau de la rivière. Donc on ne peut pas atteindre le chef-lieu du territoire. Les paysans cultivent énormément, mais ils ne savent pas vendre. Tous les produits sont presque consommés localement ou on amène à Lodja par tête. Parce que là, même le vélo, c'est un luxe. Que de bonnes volontés puissent se mobiliser en vue de chercher des voies et moyens ensemble pour sortir ces populations qui sont en difficulté. Nous avons soumis des projets de développement au niveau des instances dirigeantes du parti et même au niveau du cabinet du chef de l'État en rapport avec le BAC qui n'existe plus, les routes de dessert agricoles et qui étaient abandonnées pendant toute la période de guerre, équiper les écoles, songer au matériel médical et aux produits pharmaceutiques pour des hôpitaux qui n'existent plus que de nom.
Ouvrons le chapitre culturel. Le président du Centre congolais de l'Institut international du théâtre déplore la situation dans laquelle travaillent les comédiens congolais. Selon Valentin Mitendo Mwadi, le comédien congolais rend des services à la société, mais ne bénéficie de rien de la part de la communauté. Il l'a dit à l'occasion de la journée de commémoration ce dimanche de la journée internationale de théâtre à Kinshasa. On l'écoute au micro de Jeannot Matwaki.
Ce comédien congolais, il n'a pas de statut, c'est-à-dire qu'il travaille, sur un terrain avec des lacunes juridiques, sur un terrain qui n'est pas balisé et où il peut être arrêté sans qu'il soit défendu, où il peut avoir des problèmes sans qu'il soit secouru. Donc il n'y a d'abord pas ce statut de l'artiste, ou du moins l'homme de théâtre. Deuxièmement, aucune subvention ne vient. Dans notre pays, par exemple, il n'y a que le théâtre national qui est plus ou moins subventionné. Par le fait que les comédiens qui sont là-bas sont payés par l'État. Donc c'est déjà quelque chose, une portion du problème qui est résolu, même si ce n'est pas assez ce qu'ils touchent. Mais tous les autres artistes comédiens n'ont rien. Beaucoup vivent des aides données par des structures d'animation ou d'encadrement culturel étrangères.
Culture toujours, mais cette fois-ci à Lubumbashi, les artistes peintres également préoccupés par la recherche de la paix et de la réconciliation nationale. Pour l'artiste plasticien Kaziadi Sikasso, la peinture peut également contribuer à l'unité du pays. Il le dit en marge de l'exposition faite le week-end dernier à la Halle de l'Étoile à Lubumbashi. Kaziadi Sikasso.
Oui, aujourd'hui, je pense que le message primordial dans mes œuvres, c'est la cohésion, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est l'amitié. Donc vraiment, l'optimisme pendant la vie quotidienne. Oui, donc à travers mon exposition, j'ai montré un tableau qui s'appelle Cohésion. C'est une toile où on voit, où je représente une famille unie, soudée, qui s'appelle Cohésion. Parce que je pense aujourd'hui, la situation que nous traversons dans notre pays, quelles que soient les conséquences, je pense que nous devons vivre unis. À travers ce message, je voulais montrer que c'est vrai que le pays où les gens ont connu des exactions de toutes sortes, mais l'unité fera la force de ce pays, je pense.
Ça en est fini pour l'édition de 18h de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez le matin à la présentation de l'édition française, bien sûr. Ramambaye et bon suite de programme sur Radio Okapi.